Bonjour. Nous avons vu au dernier cours la subtilité de la réflexion de Jien sur le principe Dori, Dori qu'il traduit aussi presque automatiquement par Kotowari en japonais, n'est-ce pas ? Le sino-japonais Dori est traduit par Kotowari, le principe donc qui régit l'évolution de l'histoire et qu'il définit pour le Japon par l'équilibre entre les deux lois, celle du Bouddha et celle du souverain, n'est-ce pas ? Buppo, Obo. La loi bouddhique protège la loi royale, mais les vicissitudes de la loi royale ou de la loi royale ne sont pas à mettre au compte de la loi bouddhique, principe qu'il illustre par le meurtre de l'empereur Sushun, dont on ne peut prétendre qu'il a été perpétré au nom du bouddhisme. Ce serait blasphématoire presque, le mot n'est pas employé. Il s'agissait d'un cas de légitime défense de la part de Soga no Umako. Jien a apporté une précision importante. Dans le principe des choses, mono no dori nite, existe un rapport déterminé de grave et de léger, ite no keicho. Et l'on renonce au léger, karoki o sutsuruzo, pour s'en tenir au grave, omoki ni tsukite. J'avais lu un peu rapidement omomuki, mais c'est omoki, n'est-ce pas ? Omomuki, je l'ai lu, c'est du yomikomi, comme on dirait en japonais, parce que c'est une notion très importante chez Jien aussi, qu'on pourrait traduire par l'orientation, le cours, la portée des choses, un concept qu'il utilise très très souvent. Donc, il faut comprendre cette phrase comme signifiant que lorsqu'on se trouvera devant des attitudes apparemment contradictoires de personnages dont la légitimité en tant qu'instrument du principe est indéniable, il conviendra de considérer comme mineure leur déviation au nom d'une plus grande portée de leur action générale. Jien poursuit donc sa réflexion pour illustrer cette relativisation du principe. C'est toujours dans le livre 3 de son essai sur l'histoire. Alors, à ce propos, je voudrais vous rappeler quelques données bibliographiques. D'abord, je vous conseille d'avoir la version en japonais moderne de M. Ozumi Kazuo, n'est-ce pas, que je vous donne ici, donc le Zengen Daigoyaku, qui est très, très pratique, avec relativement peu d'annotations, très peu d'annotations, mais c'est dans la collection Kodansha Gakujutsu Bunko numéro 2113, et qui est une traduction, bien sûr, mais en même temps, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, une certaine remise en ordre plus logique, de notre point de vue, du texte parfois très décousu de Jien, comme vous le voyez, puisque moi, j'essaye dans ma traduction de le serrer au plus près pour vous donner quelques idées de sa façon de penser. Je vous donne aussi vous trouverez très facilement, il suffit de taper en japonais Gukansho et Zenbun, par exemple, et vous trouverez très facilement les deux sites que je vous donne ici. Un qui est très intéressant, qui a été fait par M. Sato Hiromi, ou ça peut être une dame aussi d'ailleurs, plutôt un monsieur certainement, de la façon dont ça s'écrit, qui consiste en la mise en ligne du texte de Iwanami Bunko, n'est-ce pas, du Gukansho. Donc le texte étant katakana et assez difficile à lire pour cette raison, mais c'est un texte soigneusement revu et sur lequel vous pouvez faire fond. Bien sûr, vous trouverez la bibliographie dans le livre de M. Ozumi. Et un autre site beaucoup plus pratique peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués à lire en katakana, c'est une remise en hiragana des six livres. Malheureusement, ce site en katakana ne comporte que les six premiers livres, pour les raisons que je vous ai dites la dernière fois, enfin il y a deux ou trois cours, n'est-ce pas. Vous savez que le Gukansho a été écrit au début des livres 3 à 6. Les livres 1 et 2 ont été antéposés après par Jien, et le livre 7 est une sorte de réflexion finale qu'il a faite après la rédaction des chapitres fondamentaux. Donc, dans ce site, vous trouvez à la fois la remise en hiragana du texte en katakana, et vous voyez, le premier site contient les six premiers livres, le second site, le septième livre. Donc, vous pouvez le regarder aussi, c'est très utile. Malheureusement, il y a pas mal de... Enfin, il y a quelques fautes de frappe que j'essaye de corriger dans... Puisque c'est à partir de cela que je vous donne les citations. Ici, c'est très pratique pour mettre sur PowerPoint. J'essaye d'en corriger quelques inexactitudes ou quelques fautes de frappe. Alors donc, à partir de cela, nous allons poursuivre la réflexion de J.N. pour illustrer cette relativisation du principe au regard de plusieurs choses qui nous sembleraient scandaleuses et qui, pour lui, sont explicables si l'on considère bien justement le homomuki, cette fois, n'est-ce pas, et à travers le homomuki, la répartition entre homoshi et kaloshi, c'est-à-dire entre grave et léger. Le grave consistant en l'orientation axiale, n'est-ce pas, primordiale, qui est pour lui celle de l'histoire du Japon, c'est-à-dire la relation entre les deux voies avec la voie bouddhique qui est à côté, qui protège la voie royale et la voie royale qui se développe par elle-même, mais soutenue moralement et ontologiquement par la loi bouddhique. Il ne faut pas mélanger les deux. Alors, voici ce que... Donc, Tsugini Seken no Dori no... Alors, je propose de dire... Keicho ici plutôt que Kyoju, comme on aurait tendance à le lire dans un texte bouddhique, mais je pense que tout le monde le dirait comme ça. Donc, ensuite, pour ce qui est d'établir le léger et le grave dans le principe mondain, Seken no Dori, vous voyez, nous sommes dans le monde du phénoménal, ce qui correspond, ne l'oubliez pas, à la vérité profane, aux Zokutai. Voici ce qu'il nous dit. Parmi les enfants de l'empereur Kimmei, n'est-ce pas, sous le règne duquel était arrivé le bouddhisme, enfin officiellement le bouddhisme au Japon, il y avait Bidatsu et Suiko. Et l'empereur, vous voyez que vous avez ici Suiko Tenno, n'est-ce pas, écrit Suiko Tenno avec et plus tard il dira Jote. Alors, je pourrais presque s'amuser à traduire Suiko Tenno écrit de cette façon, l'empereur, n'est-ce pas, à la canadienne, puisque pour le distinguer de l'impératrice Jyote, ou simplement l'empereur. Parfois, il utilise volontiers le terme d'empereur réservé normalement au genre masculin en sino-japonais pour quelques femmes impératrices. Vous voyez que un peu plus tard, il va parler de Jingu Kōgo, l'impératrice, donc la femme de l'empereur Kōgo. Il y a une subtile différence de nomenclature dans ce cas qu'il faudrait réétudier de près, mais nous n'en avons bien sûr pas le temps à présent. Donc, il y avait Bidatsu, l'homme, et Suiko, la femme, et l'empereur Suiko, tout en étant sa sœur cadette, fut l'épouse impériale, Saigo, de Bidatsu. Comment a-t-il pu faire de sa sœur son épouse? C'était un motif d'interrogation pour le Japon de l'époque de Jien. Et il relative ici la chronologie, justement le homomuki, n'est-ce pas, les fuzoku, comme il l'utilise volontiers. Il explique qu'il se peut que jusqu'à cette époque, il n'y eut pas de prévention contre une telle pratique. Koreo habakaru beshi to yukoto nakarikeru beshi. Vous voyez, là aussi, je n'insiste pas sur les nuances diverses du beshi utilisé par JN. Il faut voir le sino-japonais qui est derrière. Donc, une telle conduite, kayo no reigi wa, nochizamani, ne s'est fixé que plus tard, une telle conduite, c'est-à-dire le reigi, n'est-ce pas, une telle étiquette qui veut que la sœur n'épouse pas le frère, ne s'est fixé que plus tard, notamment après que la loi bouddhique fut apparue. Il y avait de plus l'exemple de l'impératrice Jingu, n'est-ce pas, qu'il appelle ici Jingu Kōgo, qui est au IIIe siècle, n'est-ce pas, vous savez, la conquérante de la Corée, enfin du royaume de Shilagi, mais qui avait pris la succession de son mari pour mener l'armée japonaise à la conquête de Shilagi. Nous sommes dans une période quasiment légendaire, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, je vous le dis tout de suite. Donc il y avait cet exemple de l'impératrice Jingu, et Suiko aurait donc pu être intronisée immédiatement après le meurtre de Sushun. Nous avons des exemples d'impératrices au Japon, il y en a eu après aussi. Cependant, ce fut Yome, le père du prince Shotoku Taishi, l'empereur Yome, qui fut jugé plus apte à la succession. Motomo shikarubeshi tote tsugitamainu. Cependant, alors je répète à dessein, vous voyez le côté très maladroit du style, n'est-ce pas, shikaredomo, etc. Cependant, ce fut à peine pour 2 années. Saredo ninen nite hodo nashi. Ça fut à peine pour 2 années. Taishi kakumitamaiken, alors là je traduis à ma façon, n'est-ce pas, le prince aura sans doute été à ses côtés. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la plupart des commentateurs, je n'insiste pas là-dessus. Voici ce que je vous propose. Plutôt que le prince aurait exercé la divination, ça ne concorde pas avec l'usage fréquent de ce verbe. Donc, le prince aura sans doute été à ses côtés, déjà donc du temps de l'empereur Sushun, qui s'est opposé au bouddhisme, en quelque sorte, non pas en tant qu'opposant au bouddhisme, mais en tant qu'opposant à Soga no Umako, et dont il craignait la trop grande puissance. Et le fait que, ici, Jien, je pense qu'il est plus apte de traduire comme ça par « aura sans doute à ses côtés », Jien montre bien l'aspect distancié, la conduite distanciée de Shotoku Taishi dans tous ces événements. Il va y revenir plus tard. Donc le texte continue ici. De plus, Sushun, ne pouvant plus être réfréné, Sonoe mata Sushun osaeraru beki yo nakute, lui succéda encore, c'est-à-dire à Yome, n'est-ce pas? Je traduis, je fais exprès. Le succéda encore, n'est-ce pas? C'est pour insister sur mata tsugitamaedo, malgré ce qui aurait dû être fait. Mais le prince, examinant ses traits, Soshimaïrasete, Shotoku Taishi, entre autres talents, pouvait déchiffrer la physionomie des gens, n'est-ce pas, la physionomonie. Lui déclara, cela ne durera pas longtemps, Hodo Araji, c'est-à-dire votre règne. Vous connaîtrez des déboires militaires. Heiyaku mo owashimasu beshi. Vous connaîtrez des déboires militaires. Ici, vous voyez que le Béchi, c'est un futur, simplement. Cela se voit dans vos yeux. Om manako shikajika. Sushun se refusa à le croire. Et après avoir tué un marcassin, Inoko, ici, proclama, j'en ferai avec ceux qui me haïssent comme avec cette bête. Itsu senzuran. À la disparition du souverain, le prince devint régent, Seisho, auprès de l'impératrice, et cette fois il l'appelle Suiko Jote, auprès de l'impératrice Suiko. Et la gravité, donc l'importance, omosa, du principe de la protection de la loi royale par la loi bouddhique, c'est Bupo Obo Mamoraru Beki Dori no Omosa ga, constitue un principe qui, en fonction de l'époque, Toki ni totte, titorite, ne pouvait pas ne pas fonctionner. Shiki hatarakazaru bekumo naki dorinite adikeru nari. Donc vous voyez que c'est bien pour rétablir ce principe que Sushun a été tué. Il y a donc. C'est une question d'équilibre. Alors. Quelques remarques de Jien dans son essai sur l'histoire montrent qu'il n'arborait aucune hostilité au fait que le pouvoir royal soit confié à des femmes. Il invoquera d'autres exemples, comme ici celui de l'impératrice Jingu, donc conquérante du royaume de Shilagi, n'est-ce pas, de Silla. Il serait d'ailleurs intéressant d'examiner plus en détail, malheureusement le temps nous manque, les brèves réflexions qu'il se contente de faire à propos d'un épisode majeur et toujours scandaleux de l'histoire impériale japonaise, celui des relations intimes entre l'impératrice Koken et le moine Dokyo. Vous en souvenez, nous en avons parlé il y a longtemps à propos des Jingi no Uta, n'est-ce pas, des poèmes sur les dieux, puisque l'affaire de l'impératrice Koken, qui a deux noms. Alors évidemment, ça risque de compliquer les choses lorsqu'on n'a pas les caractères chinois, mais n'oubliez pas que l'impératrice Koken a régné une première fois sous le nom d'impératrice Koken de 749 à 758, et c'est sous son règne qu'a été fondu le grand Bouddha Birushana, n'est-ce pas, Dainichi Nyōrai du temple du Todaiji à Nara, n'est-ce pas, vous le savez. Et elle habite des cas en faveur de l'empereur Junin, donc qui régna, lui, de 758 à 764, pour reprendre le pouvoir, et c'est là qu'elle est l'affaire, n'est-ce pas, de 765 à 769, où elle prit le nom de Shotoku. Alors faites attention qu'on n'a pas les caractères chinois, n'est-ce pas, vous avez le Shotoku Taishi et Shotoku Tenno, qui est l'impératrice Shotoku Koken. Et comme vous le savez, elle était très proche, dit l'historiographie japonaise, d'un moine Dokyo, qui ne voulait rien moins, n'envisageait rien moins, que de devenir empereur à son tour, en l'épousant. Et vous savez que c'est un oracle, un oracle poétique, qui a dit qu'il n'était impensable qu'un roturier devienne empereur, et il y a eu encore un de ces coups d'État caractéristiques de l'histoire japonaise qui fait que Dokyo a été exilé, et l'impératrice étant morte d'ailleurs au bon moment. Alors on ne sait pas comment Dokyo n'a pas pu lui succéder. Donc c'est à ce propos, justement, on se serait attendu à ce que Jien, à propos donc de l'affaire Dokyo Shotoku, expose encore une fois ses vues sur la complémentarité et l'équilibre entre les deux lois, n'est-ce pas ? C'était l'occasion ou jamais. Et vous savez qu'on a souvent comparé l'affaire, je ne reviens pas là-dessus, ça nous mettra loin, mais l'affaire de l'impératrice Shotoku à Sokusen. Wu Zetian, n'est-ce pas, Sokusenbu, la célèbre, comment dirait-on, usurpatrice du début du 8e siècle dans la Chine des Tang, qui était devenue impératrice, et justement avec des relations très proches avec un moine bouddhique qui s'appelait Huayi, n'est-ce pas, Kaigi, qui a été le régent occulte. Et on a souvent fait la comparaison entre les deux. Donc, Jien avait un boulevard pour parler de cette affaire. Or, qu'est-ce qu'il dit là-dessus ? Il se contente de conclure sur une brève phrase que les Anglais appelleraient un non sequitur, n'est-ce pas, en bon anglais, qui est: il faut comprendre à quel point il s'agissait de choses qui relevaient de la sphère d'action d'une émanation de Bodhisattva, d'un avatar. Ikanimo gonge no kotodomo no sakai no koto wo ba kokoro u bekinari. Donc ces choses nous dépassent. Et vous voyez que c'est un peu la même chose qu'il fait ici. Il distingue bien ce qui nous emmènerait trop loin dans la justification, justification qui ne pourrait passer que pour casuistique. Il préfère le mettre dans le cadre d'une sphère qui est au-delà de ce monde. En tout cas, ce n'est donc pas tant le fait qu'une femme soit sur le trône qui pourrait choquer, selon Jien, que le fait qu'elle ait pris pour mari son demi-frère. Et là encore, il en ramène l'explication à un possible changement de mentalité. Nous voyons donc en revanche, ou nous croyons voir, ce qu'il entend par grave et léger ici. Par comparaison avec le meurtre d'un empereur, ce qui peut apparaître comme le mariage incestueux d'une impératrice apparaît comme un tort moins grave fait au principe. Et donc, quand on parle de keicho, n'est-ce pas, grave et léger, il faut entendre les torts que l'on fait au devoir. Mais retournons à notre passage sur le meurtre de Sujun, et la subtile argumentation de J.N., qui reflète autant sa perplexité que son habileté casuistique. Pour ce qui concerne le meurtre, sous-entendu de Sushun, n'est-ce pas, Soreo Koroshitsuru Koto, hein, le Soreo, c'est Sushun. Les gens de l'époque ont sans nul doute pensé que le ministre Umako avait bien agi. Yoki Koto Shitsuru Yo, Yonoshito Omoikeme, Tokoso Yonoshito Omoikeme. Ils ont certainement pensé cela. Alors vous voyez, on ne sait si le principe de ces événements fut poussé jusqu'au point qu'il y eut une intervention intentionnelle de Suiko. Suiko no Onkeshiki, ou n'est-ce pas, Moya Majiritariken Tomade. Tomade, Dori no Saruru Nari. Et le Shirazu qui vient au début, vous voyez, c'est un trait de sino-japonais qu'il met dans sa propre réflexion, mais ce sont des choses qui nous intéressent du point de vue stylistique, mais que je ne relèverai pas trop ici. Donc on ne sait si le principe de cet événement fut poussé jusqu'au point qu'il y eut une intervention intentionnelle de Suiko. Puisque les deux voies, les Nido, de la loi bouddhique et de la loi royale, Buppo no Kata, Obo no Kata, se rencontraient aussi étroitement. Kaku shito yuki ainureba. Encore une fois, le shito, nous le verrons constamment dans les extraits que je vous propose aujourd'hui. Ça correspond, phonétiquement, ça correspond au japonais actuel pshit, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui est fort et sec en quelque sorte. Donc, on peut en général, ça veut dire kibishiku. Se rencontrer aussi étroitement, le prince aura certainement regardé l'acte de son ministre en l'estimant justifié. N'est-ce pas ? Sazokashik tote. Donc, Shinka no Sata o Goranjiken ni, il l'a regardé comme étant Sazokashi, c'est bien ce qu'il fallait faire. Et une fois ce principe, sous-entendu de la coexistence parallèle des deux lois établies, n'est-ce pas ? Dori no Ochitachi no Reba, il apparut inébranlable dans son état, ainsi justifié. Sazokashi shite adikeru yoto yurugazu miyuru nari. Dans le prolongement, sono sujinite. Voilà, il faut qu'on. Sono sujinite. Dans le prolongement du principe ainsi fermement établi, sous-entendu. Il n'y eut pas le moindre dommage dans les rapports entre loi bouddhique et loi royale. Désormais, sonogo, sononochi, bupoto obo to naka ashiki koto tsuyu nashi, tsuyu mo nashi. Il n'y eut plus le moindre accroc. Mais il n'y eut pour autant personne qui conçut la pensée de s'attaquer au souverain. Kokuo o okasan toyu kokoro mo toyu kokoro nashi. Kotogara wa mata imaimashiki koto nareba. Le simple fait de l'exprimer, et je pense que kotogara, vous savez, kotogara, il l'emploie, Jien l'emploie aussi souvent, ça veut dire un fait dans tous ses détails, son développement, les éléments du fait qu'il doit traiter pour l'analyser. Mais ça veut aussi dire kotoba no kara, n'est-ce pas, le mot. Et peut-être ici, c'est dans ce sens qu'il faut le prendre. Donc, le simple fait de l'exprimer, suscitant l'horreur, imaimashiki koto nareba, on n'en fait pas mention, sata seize. Si l'on voulait cependant le mentionner, on a bien compris que ce principe apparaîtrait dans toute sa clarté. Kono dori azayaka nari nite aberikeru narubeshi to kokoro enuru nari. Donc, c'est un événement dont il vaut mieux ne pas parler, mais si on essaye de l'analyser jusqu'au bout, on le comprend parfaitement. Azayaka, c'est un dori dans tout son aspect le plus essentiel, omoi, n'est-ce pas, omoshi. Si l'on avait puni, c'est-à-dire si Shotoku Taishi avait puni Togao Okonawa Adeba, donc s'il avait puni Umako pour cet acte, Kore ni tsukete, ce serait revenu à traiter cette calamité, sono sai, n'est-ce pas, Wazawai, ou Sai, ici il faut lire Sai sans doute, comme une calamité ordinaire. Tsune no Sai ni Motenasu ni Narankoto. Si ce qui aurait été dépourvu du sens foncier, Honyi, c'est le sens foncier, l'intention primordiale qui est derrière et qui relève évidemment toujours de la vérité suprême, de ce double principe. Donc, il ne fallait pas le punir. Le punir aurait mis l'affaire dans la loi ordinaire. Et vous verrez que tout à l'heure, il va parler du terme inga aussi. Aussi bien du plan, sur le plan juridique que sur le plan bouddhique, ça aurait été une simple loi d'enchaînement. Cela ne nous aurait pas amené du côté de la vérité suprême. Donc, Jien revient sur son idée. On ne pouvait traiter le meurtre de Sushun comme un crime politique normal, Tsune no Sai, aussi répugnant qu'il pût paraître à la mentalité de l'élite qui gouvernait le pays depuis des siècles, et l'on ne pouvait pas non plus faire de l'empereur un ennemi de la loi bouddhique. Et pourtant, son meurtre d'un certain côté exemplaire, exemplaire du fait que les deux voies sont à la fois unies en vérité suprême et clairement séparées. Si l'on s'en tient à ce que répète plusieurs fois Jien, la loi bouddhique protège la loi royale. Qu'un roi ait été objectivement assassiné pour protéger la loi bouddhique, mais ce n'est pas dit, c'est objectivement, si on se place de l'extérieur, qu'il menaçait, donc c'est la loi bouddhique qu'il menaçait, répond bien à ce fait scandaleux. On ne peut en effet nier que tel était bien le cas. Et cependant, Jien se refuse à considérer la chose de cette façon, invoquant une sorte de légitime défense, argument qui ne saurait se soutenir quand la victime est l'empereur, par ailleurs. Jamais on aurait pu dire ça, n'est-ce pas ? Mais nous voyons aussi que pour lui, l'essentiel n'est pas dans le rapport entre Sushun et Umako, mais dans l'attitude du prince Shotoku. Il faut considérer tout cela à partir du prince Shotoku, qui, en principe, n'a rien fait. Tel en tout cas que Jien la comprend. Le prince, qui n'est pas un homme ordinaire, Tadabito, n'est-ce pas, on a vu, voit au-delà des relations phénoménales ordinaires et a une vision sapientielle. Nous verrons tout à l'heure le chi, n'est-ce pas, la sapience, la connaissance préternaturelle qu'ont certains êtres. Donc il a une vision sapientielle de ce que sont les enjeux du meurtre, à savoir fixer le principe de l'établissement des deux voies dans l'histoire du Japon. Il fallait que Sushun meure pour que les deux voies puissent cohabiter. Il n'a donc rien dit, Iwade, n'est-ce pas, vous avez vu dans le texte, estimant qu'ainsi les choses devaient se dérouler. C'est le sazokashi, c'est conforme à ce que l'on attend. Son inaction ou non-agir, n'est-ce pas, à la taoïste, mui, aura permis au principe de s'établir solidement. Nous comprenons aussi que c'est de lui-même que parle Jien lorsqu'il rapporte que personne ne faisait par la suite mention d'un tel crime en raison de son caractère inavouable. C'est certainement sa remarque, faite comme en passant à propos de la conduite de l'impératrice Kōken Shōtoku, qui nous donne le fond de sa pensée. Nous sommes tout simplement incapables de comprendre la sphère des émanations d'entités bouddhiques, le Gongen no Sakai no Koto. Et Jien continue de retourner l'événement en ajoutant un nouvel élément religieux à sa réflexion pour revenir aux mêmes conclusions. Parce que Shotoku Taishi n'est pas intervenu dans le meurtre de Sushun, mais en revanche, dans la bataille avec Mononobe no Moriya, il était là, il était présent, il a tué. Voici ce qu'il a. Tada Oshihakaru Beshi. Et vous voyez ce Oshihakaru, n'est-ce pas, la réflexion. Il nous faut seulement, l'important est de continuer à réfléchir là-dessus. C'est Jien qui parle. Et c'est pour ça que j'ai intitulé en français ce Gukansho comme « Essai sur l'histoire ». Il importe de poursuivre notre réflexion. Fallait-il qu'abandonnant l'empereur son père à la mort et ne s'en occupa pas ? C'est Yome, n'est-ce pas ? Yome était mort et pendant... Shotoku Taishi, c'est Suiko qui lui a succédé, mais Shotoku Taishi, le neveu de Suiko, n'a pas assuré tout de suite les funérailles de son père. Donc, fallait-il qu'abandonnant l'empereur, son père, à la mort, et ne s'en occupant pas, Satamo Sezushite, Il décapita Mononobe no Moriya, livra de nombreux combats au prix de la mort de beaucoup d'hommes, pour qu'ensuite seulement se tinssent ses funérailles. Onso oso nado arubeshiyawa. Vraiment digne d'éloge, Makoto ni medetakere fut le principe de sa réflexion, qui fut sans doute ainsi. Puisque la voie bouddhique était ainsi obstruée, kaku futagitareba, ce n'est qu'une fois celle-ci dégagée, seule au uchi akete koso, qu'il pourrait rendre les derniers devoirs, okuri maedaseme, les derniers devoirs à son père. Il faut dégager la voie bouddhique, buppo, n'est-ce pas, en agissant dans le obo, dans la voie et dans la loi du roi. Et vous voyez encore le même argument, ceci nous dépasse. Comment se pourrait-il qu'une émanation, cette fois il dit gonja, n'est-ce pas, nous avions gongé tout à l'heure pour Shotoku, n'est-ce pas, qu'une émanation, un gonja, prenne des dispositions qui puissent devenir de mauvais exemples. Mada waroki rei ni narubeshi yawa, shi okase tamaokoto, n'est-ce pas. Gonja no shiokase tamaokoto, mata waroki re ni ou tameshi ni narubeshi yawa. Re veut dire l'exemple et le précédent. Vous savez qu'au Japon, vous avez, à l'époque de Heian, vous avez des textes entiers, qui, par exemple des shoreiki, n'est-ce pas, des listes des premiers exemples, des précédents constitutifs de telle ou telle pratique. C'était extrêmement important au Japon de savoir, lorsqu'on se livrait à n'importe quel acte, qui avait été le premier à montrer que cet acte était non seulement faisable, mais légitime. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais le meurtre de Sushun n'a pas été un exemple fondateur, et pas plus que ces manquements à la piété filiale que l'on pourrait reprocher à Shotoku Taishi ici. Donc comment se pourrait-il qu'une émanation prenne des dispositions qui puissent devenir de mauvais exemples? Or, si un événement de même trempe, kore ni tagawa no koto, se produisait à la fin des âges, yo no sueni, c'est-à-dire à l'époque où nous sommes, il n'en irait pas de même, sakoso wa mata aranzuramme. Mais à l'époque où il existait le prince, une telle chose, c'est-à-dire que ce devint un mauvais exemple, n'aurait pu arriver. Kakaru koto wa arumaji. C'est parce que le prince est là que ça ne devient pas un re. C'était bien en raison de la présence du prince, taishi no owashi nagara, le nagara il veut dire ici no yueni, n'est-ce pas? C'était bien en raison de la présence du prince que les événements, de la façon dont ils se sont déroulés, kakaru koto nite suginishi kabakoso, ne sont pas devenus un mauvais exemple. C'est ainsi qu'il nous faut le comprendre. Jien enfonce le clou, donc. L'action incompréhensible, comme nous le savons par la remarque citée tout à l'heure à propos de l'impératrice Kōken Shotoku, de l'émanation qui était le prince, ou plutôt l'action qui s'est accomplie en sa présence, ne saurait constituer un précédent historique. Alors que le prince a non seulement passivement soutenu Soga no Umako, mais qu'il a lui-même participé au combat et au meurtre de Moriya, au détriment de l'acte le plus sacré qui se puisse accomplir dans la société civile, comme nous dirions maintenant, c'est-à-dire assurer à son père, l'empereur Yome, les funérailles qui lui étaient dues, ce qu'il aurait dû faire. Donc, on retrouve ici, comme nous l'avions mentionné il y a quelque temps, une discrète allusion, c'était peut-être au séminaire, mais pas pendant le cours, une discrète allusion, non explicite, mais perceptible par tout bouddhiste, à l'empereur Ashoka, n'est-ce pas, le grand empereur Ashoka du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est d'un certain côté, enfin on ne va pas se lancer là-dedans, mais d'un certain côté, le fondateur du bouddhisme, puisqu'il l'a reconnu officiellement, il en a fait la religion de son empire, après avoir mené des guerres de conquête où il a fait des milliers de morts, dizaines de milliers de morts, il s'en est repenti et il s'est consacré après à la diffusion du bouddhisme. Là, considérablement réduit dans le temps et dans l'espace, c'est la même chose pour Shotoku Taishi, sauf qu'il ne se repent pas de sa conduite, il n'a pas à se repentir de sa conduite, c'est un bodhisattva. Et d'ailleurs, la grande différence avec Ashoka, c'est que Ashoka, lui, faisait des guerres de conquête, alors que les batailles menées ou validées par Shotokutashi ne sont pas des batailles de conquête, mais des batailles, des combats pour le bouddhisme. Ashoka ne s'est pas battu pour le bouddhisme. Donc, des faits analogues, s'ils avaient été faits en des âges postérieurs, auraient constitué une abomination. Imashi koto, imashi ki koto. Mais la présence du prince Bodhisattva sanctifie tout. Pour l'auteur de la Constitution, 17 articles, qui était le Shotokutashi, assurer des funérailles à ses parents est une obligation confucianiste primordiale. Le paradoxe du prince ne concerne donc pas seulement le bouddhisme, mais couvre l'ensemble de sa conduite politique et sociale. Tout cela n'est compréhensible qu'en vertu du principe des deux lois et des deux vérités. Mais il faut se garder de tomber dans la facilité d'une réflexion bouddhique élémentaire, ainsi que nous le dit que Chien le précise. Vous voyez, ce Okata, il aime bien, cette expression de Okata implique que, qui veut dire en général, en règle générale, daitai, n'est-ce pas, implique une sorte de maxime que va donner une sorte de conclusion à l'ensemble des choses qui sont présentées d'abord de façon plus narrative par JN. Donc, en règle générale, ou bien on pourrait même le traduire par « on peut poser comme règle générale que si l'on avait exécuté le châtiment que méritait un tel fait, kohodo no koto ni toganado okonaware naba, on aurait pensé que c'était le principe des causes et des effets ordinaire de ce monde, n'est-ce pas ? Yo no tsune no inga no dori naran koto dori naran koto to omote omote tanode dori, sous-entendu honto no dori kanawazu. Vous voyez, le style est extrêmement concis et peut nous amener à faire des fautes si on ne fait pas attention et si l'on n'a pas derrière soi en filigrane la réflexion première de JN pour le comprendre. Donc, on aurait pensé que c'était le principe des causes et des effets ordinaires de ce monde, certes approprié, sawa sarukoto no arubeki kato, ka, n'est-ce pas, mais qui ne correspond pas au principe véritable, dori kanawazu. C'est parce qu'un tel souverain a connu un tel sort que l'on y a reconnu le principe kaku narase tamao koso, dori ya tote areba koso, et que jusqu'à notre temps, cela n'a pas fait l'objet de discussion. Konoyo mademo satano hokanite wa arukoto nare. Vous voyez, ce n'est pas une histoire de inga, yonotsune no inga. Ce n'est pas, même du point de vue bouddhique, ce n'est pas du bouddhisme ordinaire. C'est quelque chose qui est encore une fois le vrai dori qui nous dépasse et c'est pour ça que l'on n'en a pas discuté jusqu'à maintenant. Satano hokani, n'est-ce pas ? C'est à la fois hors de la transmission orale, et sata veut dire aussi l'action, comme on l'a vu plusieurs fois. Donc, on n'en tient pas compte, on n'en tient pas compte comme objet de scandale. Châtier Umako aurait satisfait les deux lois, mais la loi bouddhique seulement dans son niveau le plus élémentaire de l'enchaînement des causes et conditions. Et l'on a compris que la réflexion de JN se situe bien au-delà de ce qui relèverait de la doctrine des trois corbeilles, n'est-ce pas ? C'est du Sanzokyo. Je ne reviens pas sur les gradations que fait JN de la loi bouddhique. Ce passage se conclut sur une phrase très délicate d'interprétation, mais dont on comprend sans peine qu'il nous livre les vues de JN sur la situation de son époque. Alors là, nous ne sommes plus dans la métaphysique de l'histoire, dans la méta-histoire, comme diraient certains. Nous sommes dans quelque chose de très... qui nous rend assez perplexes. Les périodes où le principe solidement établi parvient à un tel point de paroxysme, n'est-ce pas ? Mameyaka, c'est ici au sens le principe solide, n'est-ce pas ? Mameyaka no dori no korehodo kiwamaran tokiwa. Parce que à l'époque de Shotokutaishi, donc nous sommes vraiment dans ce kiwamari, n'est-ce pas ? Shikyoku, dans un contexte, comme nous avons ici, n'est-ce pas, dans un contexte de paroxysme paroxystique. On ne trouve pas cela tous les jours dans l'histoire du Japon. Donc les périodes où le principe solidement établi parvient à tel point de paroxysme, c'est-à-dire débouchant sur la réalité des faits historiques, de nos jours aussi et surtout, c'est pas, vous avez le mata ima imamo, doit être objet d'inquiétude pour tous les points de vue. Yorozu wa osorubeki koto nari. Le fait que les souverains de la fin des temps, Yonosue no Kokuo, c'est l'époque de Jien, n'est-ce pas, je n'en reviens, vous vous souvenez qu'il est persuadé de vivre à l'époque du Mappo. Le fait que les souverains de la fin des temps manquent de vigueur corporelle, Wanga Gyoktai ni Kagirite Tsuyotsuyo Shikarazu Owashimasuwa. C'est quand même extraordinaire. Le fait que les souverains de la fin des temps, c'est-à-dire les souverains que j'ai sous les yeux, manquent de vigueur corporelle, Gyokutai, vous voyez, c'est le corps de Jade, c'est le corps de l'empereur, doit être compris comme dû à la prévenance, On Hakarai, du Saint Sanctuaire, de Daijingu, c'est-à-dire la divinité du Daijingu d'Ise, c'est-à-dire Amaterasu, qui a voulu leur éviter le crime de suprême conspiration, Zoi Shikyoku no Togao Kokuo ni Arase Jito. Daijingu no on hakarai no arite, kayo no koto wa idekonu zoto kokoro ubeki nari, qui a voulu leur éviter le crime de suprême conspiration et le leur rendre impossible. C'est ainsi qu'il nous faut comprendre l'état actuel de la maison royale. Cette phrase est décidément très étrange, et l'on ne peut douter qu'elle se fonde sur l'expérience personnelle de Jien et de ses contacts avec les empereurs successifs. On peut estimer, j'ai fait un bref décompte, on peut estimer que depuis qu'il a l'âge de raison, disons 10-11 ans, il a connu 10 empereurs, avec, n'est-ce pas, vous savez que, bon, je ne reviens pas sur le système impérial japonais qui est très complexe et assez unique d'ailleurs en son genre, avec ses empereurs retirés, les jeunes empereurs sur le trône, etc. Donc cela vient d'une observation personnelle. Le terme de Gyokutai s'applique au corps physique. Et l'on ne peut imaginer qu'ils fassent allusion, comme vous pourrez peut-être le penser, à leur statut politique affaibli. Ce serait une chose possible, mais enfin, du point de vue purement philologique, ça me semble, il aurait dit autre chose. Il aurait dit un autre. Nous avons vu des synonymes. Nous avons vu des termes comme Issei, etc., pour dire la puissance politique. Donc, il faut vraiment. Il s'agit bien de leur santé corporelle. Et il est curieux de voir une assertion aussi claire et intrigante de la part d'un témoin on ne peut plus digne de foi. Son analyse sur le fond doit être soumise aux historiens et nous n'avons rien à en dire. Donc, tenons-nous-en à l'assertion de J.N. La débilité physique des empereurs de son époque est due à la providence divine, si l'on peut dire. La déesse Amaterasu l'a assuré afin qu'il n'ait pas la capacité de fomenter des complots qui puissent inquiéter le pouvoir effectif. Si nous transposons à l'époque de Jien ce qu'il relate de l'époque de Shotoku, nous voyons se dessiner une possibilité d'histoire alternative telle que notre prélat l'imagine ou la redoute, qu'un empereur, régnant ou retiré, vous voyez à qui nous pensons, n'est-ce pas, à Gotoba, se lance dans un complot, Zoi, n'est-ce pas, Zoi Shikyoku, destiné à se débarrasser de l'équivalent des tsoga de l'époque de Shotoku, à savoir, et ce n'est pas un saut d'imagination extraordinaire, les shoguns de Kamakura. Était-ce vraiment imaginaire, cette possibilité? Nous avons vu que l'empereur Gotoba semblait entretenir de tels desseins dès les années 1204-1207. Et bien évidemment, nous ne revenons pas sur les événements contemporains de la rédaction de l'essai sur l'histoire, qui vont s'achever sur le coup malheureux de Gotoba, à la suite duquel nos quatre empereurs vont prendre le chemin de l'exil. Je vous rappelle, ce sont les empereurs Chūkyō, qui avait 4 ans, Juntoku, Tsuchimikado et Gotoba. Si nous admettons que Jien n'a pas retouché son texte, la remarque daterait de 1219. Il va faire une allusion très claire tout à l'heure à Jōkyū, donc 1219-1221. Était-ce une façon de désamorcer tout soupçon de la part des autorités shogunales? Mais Était-ce à eux que, à elle plutôt, à ses autorités, que J.N. voulait montrer son texte? Ou bien cela relève-t-il de ce que l'on pourrait appeler en anglais du wishful thinking, c'est-à-dire la pensée optative? On pourrait aussi concevoir, et plutôt ça me semble plus vraisemblable, qu'il s'agit d'un avertissement déguisé à l'empereur retiré lui-même. Nous reviendrons tout à l'heure là-dessus. Une chose est certaine, c'est que ce curieux passage trahit une réelle inquiétude de J.N. à l'égard des événements qui se dessinent de son temps. Et l'on comprend dans cette juxtaposition l'une des raisons de l'écriture de son essai. Il s'agirait aussi, mais pas seulement, d'une mise au point en forme d'avertissement. S'il entendait bien le montrer à Gotoba, ou au régent proche de Gotoba, qui n'est plus Yoshitsune à l'époque. C'est à vérifier. Notons aussi l'intervention de la déesse Amaterasu, alors que jusqu'ici, c'était les entités bouddhiques qui intervenaient dans le texte. Il s'agit bien évidemment de la déesse solaire comme ancêtre suprême de la maison impériale. Attribuer une sorte de tare générationnelle frappant toute la maison à sa disposition attentionnée, on hakarai, est un argument difficile à contredire. Si nous voulions chercher une rationalité au moins dialectique dans cet argument, nous pourrions conclure qu'il s'adressait effectivement aux représentants de l'empereur, voire à l'empereur lui-même, car on ne voit pas pourquoi le clan shogunal des Hōjō irait réfuter la thèse d'un affaiblissement chronique du corps de jade qui l'empêcherait d'oxyre ses rivaux. Ça pourrait rassurer les shoguns, mais ça me semble plus vraisemblable qu'il s'adresse à l'autre camp. Bien évidemment, le fait d'avoir rédigé l'essai en japonais apparaît encore sous une autre lumière si l'on prend en compte cette intention de l'auteur, telle du moins que l'on peut la soupçonner à partir de cette remarque étrange. Il nous faudra y revenir. Pour l'instant, à la recherche de digressions de développement plus général de J.N. dans son essai, à partir desquelles nous pourrions mieux voir ses intentions, nous devons nous arrêter sur cet épisode fondamental dont nous avons brièvement relaté les péripéties, de la perte des trois joyaux divins, n'est-ce pas, lors de la bataille de Dannoura, le 24 du troisième mois de l'ère Jue, et de la troisième année de l'ère Jue, c'est-à-dire le 25 avril 1185, qui vit la défaite des Taira face aux Minamoto. On se rappelle que Niidono, ce qu'il appelle Niidono, la grand-mère de l'empereur-enfant Antoku, qui lui était âgé de 7 ou 8 ans, se jette dans les flots avec son petit-fils et avec sur elle le sceau divin, le Jinji et l'épée précieuse Hōken Takara no Tsuruki. Une dame de la cour voulut se noyer avec le miroir, mais les deux furent récupérés, et donc le miroir, le troisième trésor, le Naishi Dokoro, vous en souvenez, fut rapporté à la cour. Et voici les leçons que tire J.N. de l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire japonaise, immortalisé dans la romance des Heike, le Heike Monogatari, et qui est toujours l'un des plus connus au Japon. Somosomo, kono hōken, use hatenuru koto koso, obo ni wa kokoro oki koto ni te habere. Ainsi donc, la disparition complète de l'épée, Usei Hatenu, n'est-ce pas, complètement disparu sans laisser de traces, fut un événement sinistre pour la loi royale. À force de retourner cet épisode dans mes pensées, n'est-ce pas, vous voyez, encore une fois, nous avions tout à l'heure Oshi Hakado, n'est-ce pas, ici nous avons un O Megurasu. C'est J.N. qui rumine tout cela tout au long de ces années désespérantes pour lui. Il cherche vraiment le sens de l'histoire. À force de retourner cet épisode dans mes pensées, à la recherche du principe qui devait inévitablement s'y trouver, du principe véritable, n'est-ce pas ? Koreomo kokoro ubeki dori sadamete kokoro ubeki dori sadamete aruran. Il y avait forcément un principe kokoro ubeki que je puisse comprendre, que l'on puisse comprendre, dont on puisse faire une maxime de conduite et un principe de réflexion. Là aussi, il me semble tout simplement, n'est-ce pas, alors voici, il donne sa conclusion, « Kore wa hitoe ni Oboyuru Nadi, vous voyez, le Shitoini se finit par Oboyuru Nadi. La phrase est insérée entre ces deux ces termes. Il me semble tout simplement que dans cet âge où les guerriers Bushi tiennent le devant de la scène, Ironi Arawarete, c'est ainsi que Ironi Arawarete, n'est-ce pas, arrive à l'apparence, arrive au visible, se manifeste dans le visible. Donc tiennent le devant de la scène et assurent la protection du Seigneur Kimi, l'empereur, Kimi no Ommamorito Naritaru Yoni Nareba. Changement de paradigme historique. C'est pour leur faire place que l'épée a disparu. Vous voyez ? Kori ni kaete usetaru ni yato oboyuru nari. J'ai donc fini par me demander si tout simplement ce n'était pas pour annoncer la période de domination des guerriers, des bushi, que l'épée a disparu, que l'épée divine a disparu. Nous voyons ici poindre une réflexion qui se situe bien dans la suite de ce que nous avons vu sur le corps de jade. La perte de l'épée, le corps de jade de l'empereur, n'est-ce pas, affaibli. La perte de l'épée révèle un certain sens de l'histoire dont l'empereur doit être conscient. Le gyokutai, n'est-ce pas, no tsuyotsuyoshi karazu, l'affaiblissement du corps de jade, c'est aussi il n'y a plus d'épée pour le protéger. Et alors là, nous avons une curieuse. Nous avions Hōken tout à l'heure, n'est-ce pas, l'épée précieuse, et maintenant nous avons l'épée de samouraï Tachi. C'est pour cette raison que le sabre, tachi, parmi les armes blanches, ici ken, n'est-ce pas, kore heiki no moto nari, est la base de l'armement militaire. Il est garant, om mamori, n'est-ce pas, de l'aspect guerrier, du bu, n'est-ce pas. Il est garant de l'aspect guerrier du pouvoir. Le souverain, qu'il appelle à présent kokushu, Kokushu, faites attention, il y a Kokushu et Kokuo. Il est possible que Kokushu soit une mauvaise lecture de Kokuo, mais bon, comme les textes le distinguent ici assez clairement, en l'absence d'avoir pu consulter les manuscrits, je garde cette distinction. Donc, le souverain gouverne par les deux voies des lettres et des armes, n'est-ce pas ? Bumbu no nido nite, comme en Chine, c'est bien connu. Le bun d'un côté, la voie des lettres, la voie de la littérature au sens. C'est vraiment le mot arabe adab, n'est-ce pas ? Tout ce qui relève de la culture humaniste. Donc le souverain gouverne par les deux voies des lettres et des arbres. Des armes, pardon. Ce n'est pas un écologiste encore. C'est ainsi que pour ce qui est des lettres, la succession s'effectue selon les règles écrites. Keitai Shubun Tote. Alors, on peut comprendre ça de plusieurs façons. Keitai, c'est la succession impériale. Shubun, alors, on peut aussi imaginer que ce sont deux prérogatives de la voie des lettres. D'un côté, la succession bien établie, Shubun, de l'autre côté, la protection de garant des lettres, qu'est l'empereur. Bon, mais on peut aussi penser que, comme je viens de vous le dire, c'est la succession qui se déroule selon les règles, selon les lois. Et c'est peut-être plus pertinent ici. Donc c'est ainsi que pour ce qui est des lettres, la succession s'effectue selon les règles écrites. Et auprès de l'auguste personne, Om Minitsukite, se trouvent les doctes, Gakushi. C'est pas... Alors, pour le... Alors, auprès de l'empereur, vous avez d'une part Togu, les doctes, les lettrés, les gakushi, n'est-ce pas, pour l'éducation du prince héritier, Togu, vous avez plusieurs sortes de lettrés, vous avez ceux qui s'occupent de l'éducation du prince héritier, alors que le souverain, Shujo, a à son service les lecteurs, Jidoku, et les confucianistes, Juka. Vous voyez, nous sommes dans une représentation chinoise, n'est-ce pas, de la vie intellectuelle de la cour. Et pour ce qui est de l'aspect des armes, alors Bunoho, n'est-ce pas, ou Bunokata, Oba, ce sont les divinités des deux grands sanctuaires. Nous avons ici Sobyo, n'est-ce pas, no Kamimo, Norite, Alors là, nous avons encore une fois une vision de quelque chose, d'une idée très, très curieuse de la part de J.N., mais qui était de toutes les époques. Et on le voit déjà dès la préface japonaise du Kokinshu, mais je n'insiste pas là-dessus, donc une idée très, très curieuse. Pour ce qui est de l'aspect des armes, donc de l'aspect militaire, ce sont les divinités des deux grands sanctuaires, donc c'est le Ise Daijingu et le Iwashimizu Hachiman, n'est-ce pas, le Hachiman de Iwashimizu, pour lequel Jien a une très grande dévotion et auquel il a dédié des centuries de poèmes, n'est-ce pas, et en particulier sa centurie du Lotus. Donc ce sont les divinités de ces deux grands sanctuaires qui prennent possession, nolité, n'est-ce pas, vous avez ici, nolité, Mamori Maiseraru Lunari. Ils prennent possession des guerriers pour leur faire assurer leur rôle protecteur. Les guerriers ne sont pas de simples guerriers, ils ont sur eux, en eux, l'esprit de cette divinité, et surtout de la divinité guerrière de Hachiman. Les guerriers sont des possédés. Ainsi, le sabre des guerriers, le Tachi, a remplacé, nous avons vu tout à l'heure, Kaete, l'auguste épée, le Hōken. Le divin n'en est cependant pas séparé, car ce sont les divinités elles-mêmes qui prennent possession de ces protecteurs de la loi royale. Amaterasu n'est pas parti. Donc, l'empereur doit en prendre son parti. Nous sommes à présent, Imawa, à une époque où les guerriers et le général en chef, Daishogun, n'est-ce pas, Bushi, Daishogun, donc, nous sommes alors où les guerriers et le général en chef tiennent solidement l'empire. Yo shitotolite, encore hishi, n'est-ce pas. C'est une période où, si les intentions impériales allaient à l'encontre de celles des guerriers et de leur général, kokushu bushi daishogun ga okoro tagaete wa, le souverain ne saurait subsister. Et owashimasu majiki jiyun. Tel est le mouvement des temps, le cours de notre époque. Le souverain ne peut pas aller à l'encontre de ses guerriers. Tel est l'âge que nous avons sous les yeux, et nous, la même expression revient, « Iro ni arawarete te idekonu yo zo to ». Et « Daijingu Hachiman Daibosatsu mo yurusare nu leba ». Et comme c'est celui qui a été permis par la divinité d'Issé et le grand Bodhisattva de Hachiman, l'épée, alors là nous avons, l'épée précieuse est désormais inutile. Imawa hoken mo muyaku ni narinuru nari. Plus besoin des trésors impériaux. Vous voyez qu'il ne mentionne pas du tout le Naishi Dokoro, le miroir impérial. Je pense que pour lui, ce n'était pas le vrai miroir. Enfin, cela est une autre histoire, comme disait Kipling, nous n'y revenons pas. Donc, l'épée précieuse, le troisième et le plus emblématique des joyaux divins pour l'empereur, est désormais inutile. L'épée est remplacée par le sabre. L'empereur retiré Takakuda, la grande victime du combat auquel faisait allusion Jien, avait été établi par les gens des Taira. Heimin, vous voyez qu'il y a Heimin, il y a peut-être un jeu de mots un peu malveillant, Heimin, n'est-ce pas, qui peut vouloir dire aussi le simple peuple, les roturiers. Il n'a pas dit Heishi, ici il dit Heimin, par les gens des Taira. Que l'arme qui était garante de sa majesté, la majesté de l'empereur Takakuda, Heika, que l'arme qui était garante de sa majesté ait finalement péri de cette façon, nous le comprenons à l'évidence et n'en sommes que plus attristés au spectacle du monde. Il ne l'approuve pas, mais en même temps, c'est quelque chose d'inéluctable. Ce ne sont donc pas des paroles édulcorées, surtout si l'on pense à qui elles peuvent être adressées. Et je voulais vous faire remarquer que vous vous souvenez du Musoki, n'est-ce pas, de la relation des rêves de Jien. Là, il l'a dit expressément, il avait été le montrer à l'empereur Gotoba. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas fait la même chose avec ce Gukansho. Mais nous constatons aussi que le scoliaste qui est Jien, Kajian ne renonce pas à la structure scolastique de sa grandiose conception de l'histoire. L'épée se survit à elle-même sous l'aspect du sabre, et les guerriers sont possédés par l'esprit des dieux d'Issé et bien sûr du Daibosatsu Hachiman, dieu guerrier s'il en est. Il nous faut lire la fin de ce paragraphe, car nous allons voir que Jien fonde sa réflexion sur une conception dans laquelle faculté réflexive et pouvoir surnaturel font apparemment bon ménage, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous allez le voir. Encore une fois, Okata, voyez, Okata qui annonce sa règle générale. En règle générale, la destinée des hommes de haute et basse condition, Jōge no Shito, comme l'évolution des trois temps, Sanze no Jiun, tout ça, Jiun, n'est-ce pas, vous voyez, ce sont des mots constamment répétés. Sanze, évidemment, le passé, le présent et le futur. Donc, la destinée des hommes, quelle que soit leur condition, et l'évolution des trois temps, se produisent, alors ici, Ho ni jinen ni utsuri yuku koto nareba, se produisent, je vais traduire ici par, parce que honi et jinen sont pratiquement synonymes, mais je vais le traduire par, au sens fort par comme selon leur essence. Vous vous souvenez, nous avions parlé de hosho, la dharmata. C'est l'adverbe de hosho ici, l'adverbe de ho, n'est-ce pas ? Ce qui est conforme au dharma, c'est-à-dire à la fois aux choses et à la loi bouddhique qui est le fondement des choses. Donc, la destinée des hommes et l'évolution des trois temps se produisent comme selon leur naissance et naturellement. Et considérer cela sérieusement, imijiku, c'est là aussi un adjectif qu'il affectionne, imijiku kayo ni omoi awasurumo, et omoi awasu, n'est-ce pas, là aussi c'est le mouvement de sa pensée, réunir tous ces éléments en une réflexion. Donc, et considérer cela sérieusement, vous avez omoi awasu, tout à l'heure nous aurons tsukuri awasu. Donc, considérer cela sérieusement, bien que certains estiment que cela ne se puisse dire, vous voyez, Iwarezu to omo ushito mo arube keredomo, bien que certains estiment que cela ne se puisse dire, c'est poser clairement, encore une fois, hishito oku, n'est-ce pas ? Hishito oki de ce débat, c'est poser clairement le principe des causes et effets dans les trois temps. Sanze ni inga no dori, ce n'est pas le inga de tout à l'heure, c'est un inga beaucoup plus transhistorique. Et ainsi, par l'exacte mise en concordance en leur fondement du principe et de l'évolution historique en son essence naturelle, sono dori to honi no jiun to no motoyori hishito tsukuri awase rarete, une fois que nous aurons mis cela en concordance, tsukuri awase, nous pouvons les comprendre dans leur développement chronologique. Nagare kudarimo, c'est pas ça, le qui coule vers le bas. Mais Nagare kudari mo et noboru koto nite haberu beshi. Et nous pouvons aussi remonter vers leur origine. C'est-à-dire que l'on peut descendre l'histoire et remonter l'histoire. Nous avons un principe de compréhension sur tous les aspects, sur les trois temps. Nous sommes presque dans la psychohistoire de l'auteur de science-fiction américain Isaac Asimov, n'est-ce pas ? C'est tout à fait cela. En réfléchissant, nous pouvons comprendre l'histoire, la prévoir dans tous les sens. Mais comme je viens de le dire, Jien n'est pas tant un historien qu'un théologien de l'histoire, pour le dire avec une pointe d'assimilation abusive, bien sûr. Il croit en tout cas en la vertu de la scolastique Tendai et le dogme des trois temps que nous voyons constamment à l'œuvre dans sa poésie. Sur le lotus, n'est-ce pas, et n'oublie pas que dans la poésie, le futur, suenoyo, ce n'est pas la fin de la période la période de la fin de la loi, c'est la révélation du lotus. C'est beaucoup plus optimiste. Et c'est sur cette base rationnelle qu'il avance un peu plus loin dans sa réflexion, qui voit cette fois le mener vers des conclusions que nous accepterions beaucoup moins facilement. Mais ce n'est pas du surnaturel. Ça a l'air d'être du surnaturel, mais pour lui, c'est autre chose, comme vous voyez. Si un homme de profonde sagesse, chi fukaki shito, comprend, kokoro etsureba, comprend fermement, Shishito kokoro etsuriba. Comprend fermement l'évidence de ce principe. Kono kotowari no azayaka naru koto. Si donc un homme de profonde sagesse comprend fermement l'évidence de ce principe, il pourra connaître ces choses à l'avance, sans erreur aucune. Skoshimo tagawazu kanetemo shiraruru nari. Comme s'il était pourvu, kano yoni, n'est-ce pas ? Comme s'il était pourvu de la connaissance de la pensée d'autrui, le tashinchi, et de la connaissance de l'avenir, miraichi, qui sont deux formes de pouvoir surnaturel. Mais c'est nado o etaran yoni, il ne les a pas. C'est comme si, parce que sa réflexion, sa compréhension du dori, du principe, le mène à saisir l'histoire dans son jiyun, dans son déroulement, dans son omomuki. En commençant par les grands saints de la Chine, Confucius et Lao Tzu, nombre de sages ont tous prédit à l'avance ce qui devait immanquablement se produire. En cette génération encore, kono yonimo, il existe des gens de quelque intelligence, skoshi kashikoki shitomo, n'est-ce pas, iru, capables d'estimer la situation dans la mesure de leurs moyens, n'est-ce pas, il met un petit bémol, n'est-ce pas, zuibun ni wa sanomikoso sonoe, dans la mesure de leurs moyens. Un état qui sait utiliser, alors je traduis état ici par yo, vous voyez la grande, le grand espace sémantique de yo. Un état qui sait utiliser de telles personnes peut se gouverner, osamaru. S'il en est dépourvu, sanakishito no inakereba, n'est-ce pas ? S'il en est dépourvu, quand il s'agit d'un état gouverné par des gens capables seulement de traiter ce qui se présente directement à eux, tada sashimu kaitaru koto bakari o nomi satasuru shito wo wa yo wo tori, pardon, sashitaru shito wa yo toritaru toki wa, n'est-ce pas, donc des gens qui ne sont capables que de répondre aux besoins les plus urgents, pressants, et n'ont aucune vision d'avenir, il vous faut comprendre uketamaware que le royaume ne peut qu'aller vers son déclin. Yo wa tada use ni otoroe makaru tokoso wa uke tamaware. Et vous voyez le uke tamaware qui indique qu'il s'adresse à quelqu'un. On aura bien compris qu'il ne s'agit nullement de pouvoir surnaturel dans les capacités qu'envisage ici Jien, mais de capacités d'analyse fondées sur une claire compréhension du principe. Il s'agit presque de physique de l'histoire. Et en cela, la remarque qu'il fait sur la possibilité de remonter le fil du courant de l'histoire et de comprendre les événements du passé par l'enchaînement causal, comme de prévoir les événements futurs par le même raisonnement fondé sur les mêmes bases, est fort révélateur. On voit clairement par ce passage qu'il est fort réducteur de ne considérer Jien que comme un prélat politicien préoccupé de justifier le shogunat, qui est une interprétation courante chez les grands historiens japonais de la fin du XXe siècle. C'est certes une partie de sa démonstration, mais elle n'est là que pour illustrer une démarche infiniment plus ambitieuse, qui ne propose rien de moins que de comprendre les événements historiques par l'interaction du principe et de l'époque, le principe étant l'articulation des deux lois, chacune représentant l'une des deux vérités, l'authentique et la profane, qui n'en font en réalité qu'une au regard de l'essence suprême, Hosho. Ce texte, le texte que nous venons de lire, se trouve vers la fin du livre 5, mais il nous donne un aperçu remarquable du propos de Jien, du propos général, Sen, ce que nous allons voir tout de suite. La dernière page du livre 6, qui se présente comme une sorte de conclusion, tout en annonçant un livre 7 qui ne peut être celui que nous possédons, car le contenu annoncé diffère de celui que nous avons, nous en reparlerons un peu plus au prochain cours. Donc voici. Donc retenons-en ce paragraphe qui nous donne la substance de son propos et du regard qu'il pose sur son œuvre. Je vous le traduis ici. Et vous voyez à la fin, sore o sen nite kaki oki haberiteri haberunari, pardon, la dernière ligne, n'est-ce pas ? Sore o sen nite, tel est mon propos, tel a été mon propos dans ce que j'ai écrit. Donc, ainsi, à mesure que j'écrivais les détails, je traduis ainsi Kotogara, comme je vous ai dit tout à l'heure, ainsi qu'à mesure que j'écrivais les détails de l'évolution des souverains, ministres et guerriers du Japon, tout m'est apparu plus clairement, et je l'ai fait correspondent en pensée, n'est-ce pas, encore une fois, homoi awas, au principe épisode par épisode. De plus, sous-entendu, en mettant en garde contre les œuvres perverses, higagoto, qui dirigent le monde, afin qu'ils puissent comprendre ces points, les lecteurs, les souverains, afin qu'ils puissent comprendre... La phrase est très entortillée, hein, je vous l'analyse un peu. Il est pratiquement impossible de la traduire d'un seul tenant, nous sommes obligés de la démonter, mais je ne reviens pas là-dessus. Donc, et ma traduction reste volontairement un peu démontée aussi. Donc, afin qu'ils puissent comprendre ces points et y prendre garde, et que la postérité, nochi no shito, s'applique consciencieusement à gouverner, yoku-yoku tsushimite yo-osame, en distinguant, wakimaete, en distinguant le principe, ici, kotowari, du juste et de l'injuste, ja-sho, on peut traduire ja-se, mais ja-sho dans le bouddhisme, n'est-ce pas, en distinguant le juste et de l'injuste, et le principe, dori cette fois, kotowari dori, du bien et du mal, et afin que les âges de la fin s'accordent au principe dori ni kanaite, qu'ils deviennent réceptacles, utsuamono, des bienfaits des dieux et des bouddhas. À présent qu'il reste 16 souverains sur les 100 que doit compter le Japon. À l'époque de Jien, nous étions donc à peu près au 84e souverain, n'est-ce pas, enfin, tout 84e empereur, et une croyance répandue voulait qu'il y aurait 100 empereurs au Japon et que viendrait la fin des temps. Il en reste, d'ailleurs, le centième empereur arrivera vers le 14e siècle. Mais bon, on aura compris à l'époque. Mais c'est une époque aussi, justement, une époque de... vous allez voir le terme, je crois, qu'il va être... Non, pas ici. De miraiki, n'est-ce pas, de prédiction sur l'avenir, de vaticination. Les Nostradamus japonais abondaient, en principe et en particulier, vous aviez le Shotokutaishi miraiki, n'est-ce pas, le livre des prédictions du prince Shotoku, qui a été bien étudié par notre collègue Komine Kazuaki, n'est-ce pas, qui est un grand spécialiste de cette littérature. Donc, à présent qu'il reste 16 souverains sur les 100 que doit compter le Japon, que l'intention foncière, Honi, n'est-ce pas, c'est celle des Bouddhas et des Bodhisattvas, d'accorder éternellement des bienfaits aux êtres en protégeant jusqu'au bout la loi de Bouddha et la loi du roi, se retrouve dans l'aide occulte, cachée, l'aide myo-ho, n'est-ce pas, c'est-à-dire la réaction cachée, la réaction qui est derrière l'histoire, se retrouve dans l'aide occulte des Bouddhas et des dieux, tel est le propos que j'ai eu en écrivant. Dans les lignes qui suivent, écrivant au cœur de la tempête de l'air Jōkyū, à laquelle on est arrivé en raison des erreurs des 20 années précédentes, c'est ce que dit Jien se refuse à faire des prévisions, car ce serait se laisser aller justement au genre des miraiki, des prédictions. Et l'on voit ainsi la différence que tient à faire notre auteur entre une réflexion lucide et informée sur l'histoire et les vaticinations apocalyptiques. Il nous reste à présent, et ce sera l'objet du prochain cours, à essayer de mieux définir le rôle de la langue qu'a choisi J.N. pour rédiger cet essai si personnel. Et je vous remercie.